Chapitre 4. Il se passe rarement une semaine sans que je croise quelqu'un, un ami, un sympathisant, une connaissance ou un parfait inconnu, qui me dise que dès l'instant où il m'a rencontré ou entendu parler à la télé, il a su que j'allais devenir président. Les gens me font cette confidence avec affection, avec conviction, et non sans une certaine fierté eu égard à leur discernement politique, leur capacité à repérer les talents ou leur don de divination. Cet aveu prend parfois des allures religieuses. « Dieu avait un grand projet pour vous », m'affirme-t-il. Je souris et je leur réponds que j'aurais aimé qu'ils me disent cela à l'époque où je songeais à me présenter. Cela m'aurait épargné pas mal de stress et de doutes. La vérité, c'est que je n'ai jamais vraiment cru au destin. Je me suis toujours demandé si ce n'était pas une incitation à se résigner lorsque la vie vous met à l'épreuve et à se complaire lorsqu'on se trouve du côté des puissants. S'il existe bel et bien un grand projet divin, je le soupçonne d'avoir été conçu à une échelle bien trop vaste pour tenir compte de nos tribulations de pauvres mortels. Je pense que les accidents et les hasards qui émaillent le cours de notre existence ont plus d'incidence que nous ne voulons bien l'admettre, et que le mieux que nous puissions faire, c'est de nous efforcer de suivre le chemin qui nous paraît le plus juste, de bâtir une vie qui ait du sens dans un monde insensé, et de jouer à chaque instant, en faisant preuve d'élégance et de courage, avec les cartes que nous avons en main. Pour ma part, je sais qu'au printemps 2006, l'idée de me présenter à la prochaine élection présidentielle, quoique improbable, ne me paraissait plus en dehors du domaine du possible. Tous les jours, les demandes des médias affluaient à notre bureau. Nous recevions deux fois plus de courriers que les autres sénateurs. Tous les partis et les candidats aux élections locales de mi-mandat qui se déroulaient au mois de novembre voulaient m'inviter en vedette à leur meeting. Et nos dénégations répétées, chaque fois qu'on nous questionnait pour savoir si je comptais me lancer dans la course, semblaient avoir pour seul effet de déclencher une nouvelle flambée de spéculation. Un après-midi, Pete Rouse est entré dans mon bureau et a fermé la porte derrière lui. « Il faut que je te demande quelque chose », m'a-t-il dit. J'ai levé le nez du paquet de lettres de réponse aux électeurs que j'étais en train de signer. « Vas-y. Est-ce que tes plans ont changé pour 2008 ?»«
Je ne sais pas. Ils devraient. »
Pete a haussé les épaules. « Je pense que le plan initial, rester loin du feu des projecteurs et se concentrer sur l'Illinois, avait du sens. Mais ta cote ne descend pas. Dans l'éventualité même minime où tu envisagerais d'y aller, « j'aimerais rédiger un mémo pour définir la stratégie à adopter afin que la porte reste ouverte. Ça te va ?» Je me suis calé dans mon fauteuil, les yeux au plafond, parfaitement conscient des implications de ma réponse. « Ça me paraît raisonnable, » ai-je fini par dire. « Ok ?» a demandé Pete. « Ok. » J'ai hoché la tête et je me suis replongé dans mes papiers. Le grand Manitou du mémo, tel est le surnom que certains des membres du staff avaient donné à Pete. Entre ses mains, le mémorandum le plus fastidieux frisait l'œuvre d'art, chacun plus efficace et étonnamment plus exaltant que le précédent. Quelques jours plus tard, il a distribué au chef d'équipe une version remaniée de la feuille de route pour le reste de l'année. Il était question d'une intensification des déplacements prévus pour soutenir un plus grand nombre de candidats démocrates aux élections de mi-mandat, de rendez-vous avec des cadres influents du parti et des donateurs, ainsi que d'un programme politique revu et corrigé. Pendant des mois, j'ai suivi ce plan à la lettre, me présentant et exposant mes idées à de nouveaux publics, apportant mon soutien aux démocrates dans les États et les circonscriptions pouvant faire basculer une élection, m'aventurant dans des régions du pays où je n'avais encore jamais mis les pieds. De la soirée Jefferson Jackson en Virginie-Occidentale au dîner de gala Morrison-Exon dans le Nebraska, nous avons coché toutes les cases, rempli les salles et rallié les troupes. Dès que quelqu'un me demandait si j'allais me présenter à l'élection présidentielle, je continuais à botter en touche. Pour l'instant, je concentre tous mes efforts pour renvoyer Ben Nelson au Sénat, où nous avons besoin de lui, disais-je. Les gens étaient-ils dupes? L'étais-je moi-même? Difficile à dire. Je prenais la température, j'imagine. Je testais, j'essayais d'inscrire tout ce que je voyais, tout ce que je ressentais, au cours de mes pérégrinations d'un bout à l'autre du pays, dans la perspective extravagante d'une campagne nationale. Je savais qu'une candidature sérieuse à la présidence ne pouvait pas relever de la simple tocade. Si on voulait faire les choses dans les règles, c'était une entreprise hautement stratégique, qui se construisait lentement et discrètement au fil du temps, qui impliquait non seulement une bonne dose de confiance et de conviction, mais aussi de très grosses sommes d'argent, ainsi que le soutien d'autres personnes suffisamment engagées et dévouées à votre cause pour vous permettre de survivre à la traversée des 50 États et à 2 années ininterrompues de primaires et de caucus. Plusieurs de mes collègues démocrates au Sénat, Joe Biden, Chris Dodd, Evan Bay et bien sûr Hillary Clinton, avaient déjà posé les jalons d'une possible candidature. Certains s'étaient déjà présentés par le passé, d'autres s'y préparaient depuis des années et s'étaient entourés dans ce but précis d'un staff de donateurs et de personnalités élues prêtes à déclarer leur soutien. Contrairement à moi, la plupart pouvaient se prévaloir d'un bilan législatif conséquent. Et puis, je les aimais bien. Ils m'avaient accueilli avec générosité, ils partageaient les mêmes vues que moi sur l'essentiel des sujets, et chacun d'entre eux était plus que capable de conduire une campagne efficace, et au-delà, de conduire les affaires à la Maison-Blanche. Si j'étais de plus en plus convaincu que je possédais des atouts dont eux-mêmes étaient dépourvus pour mobiliser les électeurs, si j'imaginais que seule une coalition plus large que celle qu'ils étaient en mesure de rassembler, un discours différent du leur, avait des chances de faire bouger les choses à Washington et de redonner de l'espoir aux plus démunis, je n'étais pas moins conscient que ma popularité était en partie une illusion, due à la conjonction d'une couverture médiatique bienveillante et d'une soif exacerbée de nouveautés. L'engouement pouvait s'inverser en un clin d'œil, je le savais, et l'étoile montante se transformait en jeune freluquet assez présomptueux pour se croire capable de présider aux destinées du pays alors qu'il n'avait pas encore atteint la moitié de son premier mandat au Sénat. Mieux valait s'abstenir, me disais-je. Faire mes preuves, engranger les reconnaissances de dette, attendre mon tour. Par un bel après-midi de printemps, Harry Reid m'a demandé de passer le voir dans son bureau. J'ai gravi le vaste escalier en marbre de la chambre du Sénat, sous le regard sombre et sévère des grands hommes depuis longtemps disparus, dont les portraits s'alignaient au mur. Harry est venu à ma rencontre dans le hall d'accueil du premier étage et m'a conduit dans son bureau. Une immense pièce, haute de plafond, ornée de moulures chantournées, de carrelages et de fenêtres, donnant sur un panorama spectaculaire. Semblable à beaucoup d'autres bureaux de sénateurs, à cette différence près que le sien était très peu encombré d'objets souvenirs ou de photos encadrées de son occupant en train de serrer la main à des personnes célèbres. « Bon, je vais aller droit au but », a commencé Harry, comme s'il était réputé pour sa propension au bavardage. « Des tas de gens dans notre groupe envisagent de se présenter à la présidentielle. Je n'arrive même plus à les compter. » Et ce sont tous des gens bien, Barack. Donc je ne peux pas me permettre de sortir du bois et de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Écoute, Harry, je voudrais tout de suite mettre les choses au clair. Mais, m'a-t-il interrompu, je crois que tu devrais songer toi aussi à te lancer. Je sais bien que tu as déjà dit que ce n'était pas dans tes projets, et oui, bien sûr, il y aura des tas de gens pour maintenir que tu n'as pas assez d'expérience, mais je vais te dire une bonne chose. 10 années de plus au Sénat, ce n'est pas ça qui fera de toi un meilleur président. Toi, tu sais mobiliser les gens, surtout les jeunes, les minorités, même les plus modérés dans l'électorat blanc. Ça, c'est différent, tu vois. Et c'est exactement ça que veulent les gens. Quelque chose de différent. Bien sûr, ce sera difficile, mais je crois que tu peux gagner. Et Schumer le croit aussi. Il s'est levé et s'est dirigé vers la porte. Manifestement, notre rendez-vous était terminé. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Alors je te laisse y réfléchir, ok ? Je suis ressorti de son bureau, abasourdi. Si Harry et moi nous entendions très bien, je savais que c'était aussi le plus pragmatique des politiciens. En descendant l'escalier, je me suis demandé si son message cachait quelque chose, s'il jouait à je ne sais quel jeu sophistiqué que j'étais incapable de déchiffrer. Mais quand j'ai parlé ensuite à Chuck Schumer, puis à Dick Durbin, ils m'ont dit exactement la même chose. Le pays était avide d'une nouvelle voix. Je ne serai jamais en meilleure position pour me lancer, et grâce à ma popularité auprès des jeunes, dans les minorités et chez les indépendants, j'étais en mesure d'élargir le champ au profit des démocrates dans toutes les élections à venir. Je n'ai parlé de ces conversations qu'au directeur de mon staff et à mes plus proches amis. J'avais l'impression d'avoir posé le pied en terrain miné et qu'il me fallait à présent éviter tout mouvement brusque. Alors que Pete et moi réfléchissions ensemble, il m'a suggéré de consulter une dernière personne avant d'envisager de manière plus sérieuse toutes les implications d'une possible candidature. « Il faut que tu ailles voir Kennedy », m'a dit Pete. « Il connaît tous les ressorts, et il a lui-même été candidat. Ça te donnera un autre point de vue, et au moins, il te dira s'il compte soutenir quelqu'un d'autre. » Héritier du nom le plus célèbre de toute l'histoire politique américaine, Ted Kennedy était à l'époque ce qui se rapprochait le plus d'une légende vivante à Washington. Depuis plus de 4 décennies, Il avait joué au Sénat un rôle de premier plan dans les plus grandes causes progressistes, des droits civiques à l'assurance maladie, en passant par le salaire minimum. Avec sa stature imposante, son énorme tête et sa crinière blanche, il captait tous les regards dès qu'il entrait dans une pièce. Et c'était l'un des rares sénateurs à imposer le respect et l'attention immédiate de son auditoire, chaque fois qu'il se levait avec précaution de son fauteuil, cherchait ses lunettes ou ses notes dans sa poche de veste, puis lançait de sa légendaire voix de baryton aux accents bostoniens son rituel « Merci, Madame la Présidente !» Les arguments défilaient, la voix s'amplifiait, le visage s'empourprait. Le discours montait crescendo, tel le sermon exalté d'un pasteur évangélique, même sur les sujets les plus triviaux. Puis, c'était terminé. Le rideau se baissait et Kennedy redevenait le vieux Teddy débonnaire qui descendait la travée pour jeter un œil au décompte d'un vote nominatif ou s'asseoir à côté d'un collègue, lui poser une main sur l'épaule ou l'avant-bras et lui glisser quelques mots à l'oreille ou partir d'un grand rire jovial, probablement destiné à se le mettre dans la poche en vue d'un prochain vote, mais tellement irrésistible que ça n'avait strictement aucune importance. Le bureau de Teddy, au deuxième étage du bâtiment Russell du Sénat, était à l'image de l'homme, charmant et chargé d'histoire. Ses murs encombrés de photos de la grande époque de Camelot, la présidence de Kennedy, de maquettes de bateaux à voile et de tableaux représentant la péninsule de Cape Cod. L'un d'eux en particulier a attiré mon regard. Un paysage de rochers noirs et accidentés, dont la courbe enserrait une mer houleuse aux vagues coiffées d'écume blanche.
« Celui-là, il m'a fallu un sacré bout de temps pour le réussir, » a dit Teddy en s'approchant à mes côtés. « 3 ou 4 tentatives. »«
Ça valait le coup, » ai-je commenté. Nous nous sommes installés dans son sanctuaire, la lumière tamisée par les stores baissés, et il s'est mis à me raconter des anecdotes sur la voile, sur ses enfants et sur les divers combats qu'il avait livrés au Sénat. Des histoires hautes en couleur, des histoires drôles. Parfois, il se laissait dériver au fil d'une digression apparemment sans rapport, avant de redresser la barre pour reprendre son cap initial, lâchant de temps à autre un fragment de réflexion. Nous étions conscients l'un comme l'autre que tout cela n'était qu'une mise en scène, que nous ne faisions que tourner autour de l'objet véritable de ma visite.
« Alors, » a-t-il fini par dire, « il paraît que vous envisagez de vous présenter. »
Je lui ai répondu que c'était très improbable, mais que son conseil me serait tout de même précieux.
« Oh oui, vous savez, je ne sais plus qui a dit ça. Il y a 100 sénateurs qui se regardent tous les matins dans le miroir et qui voient un président. »
Teddy a pouffé de rire.
« Il se demande, est-ce que j'ai l'étoffe ? Jack, Bobby, moi aussi, il y a bien longtemps. Ça ne s'est pas passé comme prévu, mais bon. Les choses prennent parfois une tournure inattendue, on n'y peut rien, j'imagine. »
Il a laissé sa réflexion en suspens, perdu dans ses pensées. En l'observant, je me demandais quel regard il portait sur son propre parcours, sur celui de ses frères et sur le terrible tribut que chacun d'eux avait payé à la poursuite de son rêve. Et puis, tout aussi subitement, il était là de nouveau, ses yeux bleus intenses rivés aux miens, plus sérieux que jamais.
« Je ne veux pas m'avancer trop tôt, » a repris Teddy. « Trop d'amis. Mais je peux vous dire une chose, Barack. Le pouvoir d'inspirer est rare. Des occasions comme celle-ci sont rares. » Vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas prêt, que vous ferez ça plus tard, à un moment plus opportun. Mais ce n'est pas vous qui choisissez le moment. C'est lui qui vous choisit. Soit vous saisissez la chance qui s'offre à vous aujourd'hui et qui pourrait bien être la seule qui se présentera jamais, soit vous décidez que vous êtes disposé à continuer votre route en sachant que vous avez laissé passer cette chance.
Michel, bien évidemment, n'était pas aveugle à ce qui était en train de se passer. Au début, elle a simplement ignoré toute cette effervescence. Elle a arrêté de regarder les émissions politiques et elle esquivait les questions empressées de ses amis et de ses collègues qui voulaient savoir si je comptais me présenter. Quand j'ai évoqué ma conversation avec Harry un soir à la maison, elle s'est contentée de hausser les épaules et je n'ai pas insisté. Au cours de l'été, cependant, la rumeur a commencé à s'infiltrer par les moindres fissures de notre foyer. Nos soirées et nos week-ends se déroulaient de manière normale, tant que Malia et Sacha étaient là à gigoter dans tous les sens. Mais je sentais peser la tension dès que Michel et moi nous retrouvions seuls. Finalement, un soir après le coucher des filles, je suis entré dans le petit salon où elle regardait la télévision et j'ai éteint le son. « Tu sais bien que je n'avais rien prévu de tout ça », lui ai-je dit en m'asseyant à côté d'elle sur le canapé. Michel n'a pas quitté l'écran des yeux. « Je sais », a-t-elle répondu. « Je suis conscient que nous avons à peine eu le temps de reprendre notre souffle », Et il y a encore quelques mois, l'idée de me présenter semblait complètement dingue.
Ouais.
Mais étant donné tout ce qui s'est passé, je crois qu'il faut qu'on envisage sérieusement cette possibilité. J'ai demandé à l'équipe de préparer un petit topo. À quoi ressemblerait la feuille de route d'une telle campagne? Quelles seraient nos chances de gagner? Quel impact ça aurait sur notre famille? Je veux dire, si jamais nous décidions vraiment de nous lancer.
Michel m'a interrompu, la voix étranglée par l'émotion.
Nous? Je t'ai bien entendu dire « nous ».
Tu veux dire « toi », Barak, pas « nous ». C'est ton truc à toi.
Je t'ai toujours soutenu parce que je crois en toi, même si je hais la politique. Je hais le fait que ça empiète sur notre vie de famille. Tu le sais parfaitement. Et maintenant qu'on est dans une situation à peu près stable, même si ce n'est toujours pas une vie normale, la vie que j'aurais voulu pour nous, et maintenant tu viens me dire que tu vas être candidat à la présidence.
Je lui ai pris la main.
Je n'ai pas dit que j'étais candidat, chérie. Je dis juste qu'on ne peut pas ne pas envisager cette possibilité. Mais je ne peux l'envisager que si tu es partante.
J'ai marqué un temps. Je voyais bien que sa colère ne se dissipait pas.
Si tu crois qu'on ne devrait pas y aller, alors on n'ira pas. C'est aussi simple que ça. C'est toi qui as le dernier mot.
Michel a levé les yeux au ciel, comme pour bien me faire comprendre qu'elle ne me croyait pas.
Si tu penses vraiment ce que tu viens de dire, alors la réponse est non, a-t-elle déclaré. Je ne veux pas que tu te présentes à l'élection présidentielle, en tout cas pas maintenant.
Puis elle m'a lancé un regard grave et elle s'est levée du canapé.
Bon sang, Barak, quand est-ce que ça sera assez?
Avant que j'aie eu le temps de répondre, elle est partie dans la chambre et elle a fermé la porte.
Comment aurais-je pu lui en vouloir de réagir ainsi? En évoquant la simple éventualité de ma candidature, en mettant mon staff dans la confidence avant même de lui avoir demandé sa bénédiction, je l'avais mise dans une situation impossible. Depuis des années, j'exigeais de Michel courage et compréhension vis-à-vis de mes entreprises politiques, et elle en avait pleinement fait preuve, à contre-cœur mais avec amour. Et chaque fois, je revenais à la charge, et j'exigeais plus encore. Pourquoi lui faire subir une telle épreuve? N'était-ce que de l'orgueil de ma part? Ou quelque chose de plus sombre, peut-être? Une ambition dévorante et aveugle, dissimulée sous le voile diaphane de beaux discours altruistes? Ou bien cherchais-je encore et toujours à prouver ma valeur aux yeux d'un père qui m'avait abandonné, à me montrer digne des espoirs que ma mère avait placés en moi, ébloui d'amour pour son fils unique, et à vaincre ce qui subsistait en moi du complexe d'être né métisse.
C'est comme s'il y avait un trou que tu t'acharnes à vouloir combler, m'avait dit un jour Michel, au début de notre mariage, après une période où elle m'avait vu travailler jusqu'à l'épuisement.
C'est pour ça que tu ne peux pas ralentir.
En réalité, je pensais avoir résolu toutes ces questions depuis longtemps, avoir réussi à atteindre l'équilibre à travers mon travail, la sécurité et l'amour grâce à ma famille. Mais je me demandais à présent si je serais jamais capable d'échapper à cette plaie invisible qu'il me fallait constamment guérir, cette impulsion mystérieuse qui me poussait à vouloir toujours plus. Peut-être était-il impossible de voir clair dans ses propres motivations. Un sermon de Martin Luther King me revenait en mémoire. L'instinct du tambour-major. Il y évoque le désir profond que nous ressentons tous d'être les premiers, d'être célébrés pour notre grandeur. Nous voulons tous marcher en tête du cortège. Mais il est possible de conjurer ce genre de pulsions égoïstes, poursuit King, en mettant cette quête de grandeur au service d'objectifs plus désintéressés. On peut ambitionner d'être le premier à tendre la main, le premier à prodiguer son amour. À mes yeux, c'était une façon satisfaisante de résoudre l'équation qui mettait aux prises en chacun d'entre nous les instincts les plus vils et les plus nobles. Sauf que je me heurtais à présent à une autre évidence. Je n'étais pas le seul à devoir faire des sacrifices. C'était ma famille tout entière qui se retrouvait embarquée, exposée en première ligne. La cause que défendait Martin Luther King et ses talents justifiait peut-être de tels sacrifices. Mais pouvais-je en dire autant? Je n'en savais rien. Quoi qu'il en soit par ailleurs de ma foi, je ne pouvais pas m'abriter derrière l'idée selon laquelle Dieu m'appelait à devenir président. Je ne pouvais pas non plus prétendre être le simple jouet des puissances invisibles de l'univers. Je ne pouvais pas prétendre être indispensable à la cause de la justice et de la liberté, ni me décharger de la responsabilité du fardeau que je ferais peser sur les épaules de ma famille. Les circonstances avaient peut-être ouvert la porte à une possible candidature, mais rien au cours de ces derniers mois ne m'avait empêché de la refermer, et je pouvais d'ailleurs encore le faire très facilement. Mais je n'avais pas fermé cette porte. Je l'avais même laissée s'entrouvrir un peu plus encore, et Michel n'avait pas besoin d'en savoir davantage pour savoir à quoi s'en tenir.
Si l'une des qualifications requises pour être candidat au poste de pouvoir le plus important au monde était la mégalomanie, il faut croire que j'avais réussi le test haut la main.